efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Barré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette émission de Priorité Santé enregistrée en public au Bénin, oui, ici à l'Institut français de Cotonou. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de RFI. Merci beaucoup. Nous allons vous donner la parole, cette émission qui concerne chacun d'entre nous, puisque pendant l'heure qui vient, il sera question de dialogue, dialogue entre les générations, ça passe ou ça casse. Et quand ça va mal, les ruptures peuvent être lourdes de conséquences pour les adolescents à l'âge de toutes les découvertes. Communication impossible quand la colère ou le silence l'emporte sur la compréhension et la tendresse. Lorsque la famille n'est plus un soutien, l'impact peut être particulièrement grave en matière de santé. Manque de moyens pour se soigner, sentiment de rejet, absence de réconfort et de protection dans des situations parfois difficiles, voire même départ forcé de la maison. Alors il faut dépasser les tabous, tendre la main, comprendre certaines évolutions. Est-ce que cela peut s'apprendre? Comment retisser le lien? Qu'ont les anciens à apporter aux jeunes? Et la jeune génération, est-ce qu'elle a des arguments pour convaincre les aînés? On en parle avec nos invités et avec vous dans le public, ici à Cotonou. Dialogue entre les générations, une émission enregistrée à l'Institut français de Cotonou avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et pour commencer, un petit tour de table pour présenter nos invités. Madame Mitsoura Salou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chargée des programmes santé sexuelle et reproduction des adolescents jeunes et genres au sein de l'organisation CERADIS. Michel Meinto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, vous dirigez l'association béninoise des psychologues cliniciens. Bruno Beintou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence au sein du ministère béninois des Affaires sociales. Et avec nous, également autour de cette table, Roland Agbessi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif des scouts du Bénin. Merci. Michel Meinto, quels sont les grands sujets, les grands thèmes sur lesquels, dans votre pratique en psychologie, vous constatez des blocages entre les parents et entre les enfants? Sur quel sujet on se dispute?
Je pourrais dire qu'il y a, par exemple, la question de la sexualité. Il y a la question de la reproduction. Il y a la problématique du mariage forcé, du mariage précoce. Il y a les questions d'hygiène. Au-delà, on peut également évoquer la question du choix du conjoint ou de la conjointe, qui pose un véritable problème à la société béninoise et qui constitue un véritable obstacle dans le dialogue ou le lien parent-enfant.
La question, c'est concrètement de pouvoir choisir celui avec qui on voudrait vivre et se marier.
La question, c'est ça. Mais le plus souvent, vous devez savoir que dans une relation intergénérationnelle, il y a deux niveaux de mécanismes psychologiques. Il y a le niveau motivationnel et le niveau des exigences contextuelles. Dans le dialogue intergénérationnel, il se pose un véritable problème de communication entre les parents et les enfants.
Surtout quand on est à la période de l'adolescence. Mistoura Salou, c'est vraiment une période charnière. Les jeunes ont envie de tout, les parents les regardent, il y a l'inquiétude. Mais est-ce que l'inquiétude doit forcer les parents justement à essayer de parfois les surprotéger, quitte à faire éclater l'entente familiale?
Les parents ont effectivement le droit, comme on le dit, de protéger l'adolescent. Mais les parents aussi doivent comprendre que les jeunes doivent être laissés à faire des expériences, ils doivent les aider à aller vers des expériences. Mais le devoir de parent doit être plus l'accompagnement. Quand le jeune commence pas à vouloir s'affirmer, il faut amener le jeune à comprendre ses choix, à l'amener sur des choix éclairés, des choix responsables, que chercher à plus protéger. Là, il faut nécessairement communiquer plus davantage avec l'adolescent et le jeune.
Est-ce que justement, quand on est parent, Mistoura Salou, oui, on peut apprendre à communiquer avec ses enfants et surtout avec ses adolescents?
Les parents ne doivent pas apprendre, c'est un devoir. Les parents doivent communiquer. Parce qu'on a compris que généralement, sur certaines questions qu'on voit souvent, des questions de tabou, les questions liées à la sexualité, même le choix par rapport à un emploi. Quand l'enfant a son bac, il veut faire telle filière, mais le parent a tendance à l'obliger à faire telle. Déjà, ça crée déjà des conflits. Le choix, le parent doit l'amener à communiquer. Les parents ont le devoir de communiquer, mais pas imposer.
Roland Agbessi, vous, avec vos activités au sein des scouts du Bénin, vous avez ce lien entre les générations. Vous organisez des sessions d'échange. Comment ça se passe exactement?
La question est telle que, quelquefois, en tant que jeune, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette forte influence des parents sur des choix que vous devez faire, selon que vous ayez décidé de choisir votre conjoint ou de choisir votre profession. Mais quelquefois, ils ont même des informations que vous-même, vous n'avez pas, qu'ils ne partagent pas avec vous parce qu'ils ne sentent pas le besoin de partager avec vous ces informations-là. Il y a des problèmes peut-être qui datent de leur enfance ou des familles ont eu des conflits, mais ils ne trouvent pas l'opportunité de partager tout ça avec vous et vous empêchent d'aller au choix qui pourrait peut-être être le meilleur pour votre vie. Alors, au niveau du scoutisme, le scoutisme se place un peu au milieu de l'école et de la famille pour donner l'occasion aux jeunes qui peuvent pas s'exprimer, qui peuvent pas aborder les questions en famille et qui peuvent pas aborder certaines questions également à l'école, de trouver le cadre où ils viennent s'exprimer. On dit que nous sommes un mouvement des jeunes, mais soutenu par des adultes, où les jeunes ont l'occasion de rencontrer des gens qui ont l'âge de leur père, avec qui ils discutent des questions qu'ils ne peuvent pas aborder au niveau de leur famille.
Alors, on l'a compris, Bruno Gbeinto, c'est important quand justement il y a cette rupture en famille, quand la communication ne passe plus, d'avoir une sorte de médiation, quelqu'un de l'extérieur qui peut ramener justement la discussion entre le jeune et ses parents.
La médiation, Madame Parier, la seule solution, en effet, lorsque parents et enfants ne peuvent plus discuter. Parce que le blocage, donc, lié au vécu des parents, lié à leur histoire intime, lié à leur conviction, bloque la discussion qu'il peut avoir avec maintenant la fougue de la jeunesse. Et nous sommes dans un monde très éclairé par plusieurs possibilités, les médias, les copains, mais également d'autres relations. Et donc, il faut une personne pour jouer à l'arbitre, mais pas une personne non plus qui va siffler et dire: non, je donne carton rouge, je donne carton jaune, mais qui va d'abord prendre sur elle, cette personne, d'écouter, d'intégrer la préoccupation des deux parties. Nous sommes presque dans une situation diplomatique lorsque entre deux pays il y a un problème. Il faut d'abord intégrer, être capable maintenant d'amener chacun à un niveau tel que j'écoute la deuxième partie. Et c'est le rôle, justement, que on doit jouer en tant qu'acteurs sociaux, la médiation avec l'écoute comme base de travail, mais ensuite des conseils. Nous pouvons ne pas nous entendre, mais est-ce que nous pouvons retrouver un niveau où au moins les deux ont garanti que leurs préoccupations ont été prises en compte par les autres? Une maman qui couve son enfant, comme nous l'avons dit ici depuis le début de cette émission, ce n'est jamais pour faire du mal. Par contre, cette façon de couver l'enfant peut ne pas permettre à l'enfant maintenant d'éclore, d'évoluer, de se socialiser comme il le faut.
Alors justement, quand il y a blocage, il peut y avoir deux cas de figure. Les parents qui mettent, pour parler crûment, les enfants à la porte, on les met dehors, ou l'enfant qui a bout, qui fugue, qui a peur, ou même qui reçoit des coups, qui fugue. Il faut bien souligner que dans ces cas-là, l'enfant est véritablement en danger. Bruno Gbeinto, c'est quelque chose que vous constatez. Il y a des structures d'accueil pour ces enfants qui sont en perdition, pour ces enfants des rues. Dans quel état, on est une émission de santé, dans quel état on retrouve ces enfants?
Alors, le départ d'un enfant, c'est toujours un véritable problème, une catastrophe. Et on les retrouve souvent désorientés, déstructurés. Il y a presque des lésions psychologiques parce que vous pouvez vous retrouver devant un enfant qui a subi donc cette contradiction, cette opposition violente et qui refuse de parler. Et oui, fort heureusement, au Bénin, il y a des structures qui peuvent les accueillir, déjà les spécialistes comme Michel.
Des psychologues qui peuvent faire une prise en charge.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui désormais peuvent écouter l'enfant, le ramener à la raison et ouvrir les voies pour un dialogue. Et lorsque vous n'avez pas directement ça, c'est un enfant qui a fugué à cause de ses problèmes et qui se trouve effectivement dans des centres d'accueil et de protection d'enfants, et où là encore, on fait de l'identification, de l'écoute, du conseil, mais en cherchant à tout moment qu'on renoue le dialogue avec les parents. Et nous, au niveau du ministère, précisément au niveau de la direction, nous avons fait ce constat, ce diagnostic qui nous a même amené à proposer un guide de dialogue parents-enfants qui est en élaboration, mais qui n'est pas là pour dire nous faisons asseoir des parents, nous leur donnons des leçons de vie, mais c'est juste un outil d'accompagnement pour leur permettre désormais de rester un peu plus ouvert devant les préoccupations des plus jeunes.
Mistoura Salou voulait réagir.
Oui, et quand on rencontre ces gens d'enfants qui vivent des situations hyper compliquées avec leurs géniteurs, les parents, ce n'est pas que sur le côté affectif ou psychologique, mais il y a aussi le côté santé.
Exactement.
Surtout par rapport à la santé sexuelle. Parce que pendant la période d'adolescence de l'enfant, la jeunesse, l'enfant, il y a les impulsions. Et l'enfant, l'adolescent, va vers une certaine curiosité. Et il y a le sexe qui est là. Donc l'enfant qui fugue, il est dans un milieu peut-être nouveau et il subit d'autres pressions. Et l'enfant est maintenant exposé à d'autres maladies comme les IST, voilà. Et là, on peut avoir aussi des grossesses. Dans quelles conditions de grossesse on peut, les conséquences peuvent être maintenant des avortements provoqués. Et tout ça est lié à cette manque de communication, à cette tolérance d'accepter l'enfant dans ce contexte. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que l'ancienne génération, il y a le tabou lié à l'éducation sexuelle. Dans nos familles, la sexualité, c'est le silence plat. On n'éduque pas l'enfant du tout par rapport même à la simple morphologie, à comment son corps évolue, à la puberté. On n'apprête même pas l'enfant, par exemple, au premier menstrue. Ce qui fait que l'enfant ne comprend rien et on ne veut pas non plus communiquer sur ça avec l'enfant. Et l'enfant maintenant est obligé d'aller vers ses pères avec des informations erronées. Et quand l'enfant revient par une certaine curiosité vers les parents ou d'autres adultes, là, ça crée des frustrations. Et là, le dialogue est coupé.
Dans quelques secondes, on va donner la parole à une première personne du public. Michel Minto, je voulais juste votre opinion justement là-dessus. En consultation, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des adolescents en rupture? Et quel cas, justement, vous traitez? De quoi vous parlez avec eux?
Je peux vous dire, le dernier cas que j'ai reçu date d'à peine quelques jours. L'autre semaine, j'ai reçu une dame qui a été référée par un psychiatre, dont l'enfant de 18 ans, doit tenir rapport sexuel avec 4 filles dans une même journée. Et tout est parti du décès de son père. Et donc, nous, on a constaté après les entretiens qu'il y a la problématique d'un deuil mal vécu. Et du coup, on a constaté également qu'il y a une mère autoritaire, une mère qui, au lieu d'utiliser ce que l'on appelle la discipline positive, utilise les cris, hein, les cris et le châtiment corporel pour ramener les enfants à l'ordre. Et donc, comme l'enfant est habitué à cela, dès que maman va au service, l'enfant manque les classes, il fait l'école missionnaire, il reste à la maison, et les enfants, les jeunes filles arrivent à tour à tour, et c'est dans la soirée, quand madame rentre tardivement à la maison, le voisinage interpelle madame pour dire à madame que, attention, ton enfant, il y a un problème. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les deux autres frères de notre patient désigné également ont des problématiques qu'il faut nécessairement essayer de prendre en charge. Et nous avons proposé à cette dame ce que nous appelons la thérapie systémique ou familiale. Mais soyez rassurés que même la dame, elle déprime à l'heure où nous parlons et il juge nécessairement que ce garçon revoit à nouveau le psychiatre avant de revenir auprès de nous pour que véritablement nous essayions une thérapie, comme on l'a dit tout à l'heure, pour prendre toute la famille en charge.
Face justement à des adolescents qui ne sont pas toujours faciles à gérer aussi.
À gérer.
Hein. C'est pas si simple que ça. Bruno Benito, tout à l'heure avec vous, on va revenir justement sur le lien primordial de la famille. C'est pas parce qu'on est en crise familiale qu'il faut envisager une rupture. C'est pas du tout cela qu'on est en train de dire autour de cette table. En tout cas, on va passer la parole tout de suite. Le micro RFI dans le public ici à l'Institut de France. Et avec nous, on va justement donner la parole à Natacha. Bonjour Natacha.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes ici pour témoigner. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment ça s'est passé chez vous et pourquoi aujourd'hui vous avez jugé nécessaire de nous raconter votre histoire?
Ça n'a pas été facile pour moi. Lorsque j'étais à l'école, mes parents me conseillaient d'aller étudier et non suivre les garçons. Mais brusquement, je suis tombée enceinte. Mes parents sont fâchés correctement contre moi. Mais c'est grâce à certaines personnes et à certaines infirmières de la clinique, de la BAC clinique qui travaillent dans notre village. C'est grâce à ces gens que mon papa personnellement m'a accepté. Sinon, il a refusé correctement que je revienne à la maison.
Combien de temps, Natacha, vous avez passé justement à la porte de la maison? Et quand votre père a décidé justement que vous ne pouviez plus rester à la maison parce que vous étiez enceinte, qui s'est occupé de vous à part cette infirmière?
Au moins, j'ai fait un mois et demi. Et c'est ma tante maternelle qui s'est occupée de moi.
Et à ce moment-là, vous vous êtes sentie en danger? Comment vous étiez psychologiquement? Est-ce que vous arriviez à en parler autour de vous?
Bon, grâce à l'infirmière, je suis un peu à l'aise parce que je suis seule et je suis toujours soucieuse. Et maintenant, si je m'approche de l'infirmière, c'est elle qui m'aide, qui me conseille, qui me met sur les voies, sur le chemin. Comment je vais faire pour continuer? Comment je ne vais pas aller à l'avortement?
Donc, vous n'avez pas avorté. Aujourd'hui, vous avez un petit enfant. Comment ça se passe? Vous êtes rentrée chez vous. Comment s'organise le quotidien? Et est-ce que vous avez pu reprendre un projet d'études?
Oui, j'ai pu reprendre. Parce que lorsque la madame m'a aidée à aller vers mon père, il a pu accepter. J'ai repris les cours. Lorsque j'ai accouché, ma maman et mes grandes sœurs se sont occupées de mon enfant jusqu'à ce que j'ai eu mon bac.
Donc vous avez eu votre bac. Bravo, oui. Bravo. Un beau bébé et un projet professionnel, c'est quoi? Vous allez devenir?
Bon, je suis en lettres modernes à l'UAC.
Donc vous allez enseigner?
Oui, je vais être professeure de français.
Merci beaucoup Natacha, merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est courageux de parler comme ça en public devant tout le monde. Merci infiniment. Michel Meinto, on voit là la rupture, la médiation grâce à quelqu'un de l'extérieur, c'est possible. Donc quand on est dans une situation particulièrement douloureuse, il ne faut surtout pas baisser les bras.
Il ne faut pas baisser les bras et vous devez constater que les propos du récit de vie de Natacha sont éloquents en la matière. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué la question au départ de la problématique de la sexualité, de la reproduction. Et pour terminer tout à l'heure, j'avais évoqué la question de la monoparentalité. Et donc, nous avons beaucoup de filles qui se retrouvent dans le cas de Natacha. Et dans le cas de Natacha, vous devez savoir qu'elle a une capacité de résilience assez forte. Et beaucoup de jeunes filles, dans son cas, ont échoué. Bien qu'elles ont trouvé auprès d'elles des infirmières, des personnes, de tierces personnes pour véritablement les accompagner et pour les aider, elles ont échoué parce qu'elles n'ont pas une capacité de résilience qui puisse véritablement les amener à surmonter les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. J'ai vu des jeunes filles qui ont porté les grossesses sur les bancs et qui ont réussi. Et les parents de Natacha ont été des parents tolérants, qui à un moment donné ont fermé les yeux, ont pensé que c'est leur fille et l'ont accepté. Ailleurs, on ne va jamais vous accepter. Natacha était encore au niveau de l'échelle des besoins vitaux. Et donc, elle était encore prise en charge par ses parents. Et donc, elle n'avait pas le droit de tomber enceinte.
Mistoura Salou, Bruno Gbeinto et Roland Gbessi, on va se retrouver dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité, juste après les informations, toujours pour continuer à parler du dialogue entre les générations dans cette deuxième partie de Priorité Santé, toujours ici, à Cotonou, au Bénin. On se retrouve dans 3 minutes.
Priorité Santé, Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, une émission enregistrée au Bénin à l'Institut français de Cotonou et c'est toujours en public. toujours en compagnie de nos invités pour parler du dialogue entre générations. Mistoura Salou, chargée des programmes santé sexuelle et reproduction des adolescents, jeunes et genres au sein de l'organisation Séradis. Michel Meinto, psychologue, directeur de l'association béninoise des psychologues cliniciens. Bruno Beinto, directeur de la famille de l'enfance et de l'adolescence au sein du ministère béninois des affaires sociales. Et Roland Agbessi, directeur exécutif des Scouts du Bénin. Une citation avant de vous donner la parole. Cet appel de la représentante du Fonds de l'ONU pour la population, c'était en décembre dernier, à l'occasion de la conférence internationale sur le sida à Abidjan, ICASA 2017. Elle appelait les familles africaines pour qu'elles rompent le tabou de la sexualité. On en a beaucoup parlé pendant la première partie de cette émission. Bruno Beinto, du ministère béninois des Affaires sociales, comment vous réagissez à cet appel? Pour vous, justement, la sexualité, c'est totalement tabou et en tout cas, c'est un gros morceau dans les disputes entre enfants, entre adolescents et parents.
Malheureusement, c'est encore le cas chez nous. Difficile de discuter sexualité avec ses parents. Et quelquefois, ça va au-delà, puisque on peut aller jusqu'à surveiller. Alors que l'opportunité doit être donnée à chaque enfant d'en discuter justement. En discuter parce que c'est en comprenant ce qui se passe à la maison avec une personne responsable qui peut décrire les phénomènes, comprendre que l'enfant est jeune, se dit ce qui se passe avec moi, je ne suis pas le premier. Et c'est ce tabou qui est fondamentalement un des points d'achoppement les plus violents entre les adolescents et leurs parents. Parce que on joue au chat et à la souris. Les parents jouent les gendarmes, pas les conseillers. Et en retour, les enfants cachent tout. Il est important justement que tout ce que nous faisons, tous les acteurs amènent ces deux entités, ces deux personnes à dialoguer.
Est-ce que les choses se passent différemment en fonction du lieu où l'on vit en matière de dialogue entre les générations, Bruno Beinto? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a une dynamique différente en ville par rapport à l'intérieur du pays, par exemple?
Il y a une évolution et il faut être honnête. Il y a une évolution lorsque les parents ont eu certaines formations, ont réussi eux-mêmes à casser le tabou. Parce qu'il faut déjà casser le tabou à son propre niveau. Et c'est ça la chose la plus difficile. Vous verrez des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires incapables de dialoguer avec
leurs enfants.
Mais il faut reconnaître que selon que nous nous retrouvons en ville et au village, selon que les parents ont eu une certaine évolution et quand Natacha a eu cette situation dans son jeune âge, elle ne risquera pas, sauf erreur de ma part,
de le répéter avec ses propres enfants.
Selon notre histoire propre, selon les situations que nous avons surmontées nous-mêmes, le dialogue parent-enfant est quand même une chose différente.
Mistoura Salou, vous voulez ajouter quelque chose?
En tant qu'acteur du terrain, c'est vrai qu'il y a une petite évolution. Quand on est au niveau de la ville, il n'y a pas pour nous grande évolution parce que le sexe est toujours très tabou. Et ce qui entoure le sexe, j'ai l'habitude de dire, quand un enfant naît en Afrique, on demande, il est de quel sexe? Mais après, personne ne veut plus parler de ce sexe.
C'est juste pour l'état civil.
Donc, c'est juste pour l'état civil. Et les gens oublient que le sexe fait partie du corps de l'enfant, comme le bras, où l'enfant peut avoir un bobo, une maladie.
Mais on n'en parle pas pourquoi? Parce que c'est interdit ou parce que c'est gênant? Et puis finalement, ça nous arrange de ne pas en parler,
c'est plus simple. C'est gênant, on croit que c'est quelque chose sacré, on ne doit pas le dire. Le dire, c'est amener l'enfant vers le sexe. Tout ça. Donc, il y a de ces fausses rumeurs qui tournent. Et moi, je dis, c'est de l'hypocrisie. Parce que tout le monde joue autour du sexe. Quand nous voyons que les adultes s'y plaisent très bien, les premiers cas de contact sexuel que les adolescentes ont, demandez à une adolescente, qui a été ton premier homme? C'est quelqu'un qui le dépasse de plus de 10 ans. Généralement, c'est ce que nous avons comme retour sur le terrain.
Roland Agbessi, vous vouliez réagir à votre tour?
Je pense qu'il y a... Il y a une culture africaine, la théorie du secret, un peu comme on le dit, où ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire autour du sexe a contribué à créer de préjudices aux jeunes, surtout en matière de santé. Et normalement, dès lors que tu as de petites affections en termes de santé, les premières personnes avec qui tu passes plus de temps, c'est peut-être les parents vers qui tu dois te diriger et leur parler. Vous ne pouvez pas imaginer que, en l'absence de cette communication, que des gens puissent garder des infections sexuelles. Hein, par, sur eux et cherchant l'occasion de parler à des amis qui leur conseillent des médicaments et des situations qui s'aggravent et qui arrivent à la stérilité après parce qu'on a refusé.
Alors qu'une petite infection prise en charge au départ aurait été très rapidement traitée.
Très rapidement traitée. C'est pour ça que je pense qu'il faut, il vaut mieux être dans la prévention. C'est une norme sociale qui va changer avec le temps. Ça va prendre du temps, un peu comme monsieur du ministère l'a dit. En ville, ça a commencé par prendre un peu.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'effet est pire finalement que ce qu'on voulait au départ. Vous vouliez réagir aussi, Michel Meinto, réaction assez rapide parce qu'après on va donner la parole aux personnes qui sont dans la salle.
Nous sommes dans une hypocrisie pulsionnelle. Vous savez, les enfants sont en contact avec les réalités autour du sexe. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelais bien qu'en classe de 3e, on me présentait les organes génitaux avec leurs différentes parties. Et je me rappelle encore, comme hier, qu'il y a une petite fille à qui l'instituteur a demandé de demander aux parents ce qu'on appelle clitoris et ça se situe à quel niveau. Alors lorsque la petite fille arrive à la maison, elle pose la question à son père. Papa répond que la meilleure personne capable de répondre à cette question, c'est ta maman. La petite fille se dirige vers sa mère et la mère était incapable de dire ce que c'est que clitoris à sa fille. Vous voyez, c'est autant difficile que aujourd'hui, moi je me résolus à dire et à saluer les parents. Parce que avec tout ce que nous disons ici, il y a des parents qui osent et qui discutent véritablement avec les enfants de la sexualité.
Je voulais toutefois ajouter...
Miss Tourat Saloum, mais on va quand même donner la parole aux jeunes qui sont dans la salle. C'est quelque chose d'important d'entendre aussi ce qu'ils ont à dire.
Oui. Je dis, nous demandons toujours aux parents de communiquer avec les enfants, de communiquer avec les adolescents. Mais comment communiquer? Il y a une manière de communiquer. Il y a une manière d'aborder le thème. Parce qu'on ne peut pas communiquer en oubliant notre contexte sociologique. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des moyens justement d'apprendre à communiquer comme cela?
Il y a des moyens. Et il y a des gens qui ont utilisé des guides. Nous avons développé des aptitudes par rapport à ça, où on fait la promotion du dialogue parents-enfants, le dialogue en famille, le dialogue intergénérationnel qui réunit tous les acteurs, les leaders, les parents, les enfants. On ne peut pas aller, on va aller à l'échelle. C'est pour ça que nous faisons la promotion aujourd'hui. Nous demandons à l'État qu'il y ait l'éducation sexuelle complète, que cela soit introduit dans le curriculum de formation.
Bruno Benitou, je vais vous donner la parole, vers l'éducation, mais je voudrais vraiment donner la parole. On va commencer justement ce tour sur les bancs de l'Institut français où nous sommes en ce moment. On va donner la parole à Emmanuela. Emmanuela, la première auditrice, spectatrice de Priorité Santé ici à Cotonou, à qui on donne la parole. Bonjour Emmanuela.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, madame, j'ai juste une question. J'aimerais demander, pour protéger une adolescente, les parents sont-ils obligés de l'enfermer? Ça, c'est ma question.
Bruno Benito, je vous donne la parole.
Je vais avec une réponse claire, c'est non. L'enfermement, le cloisonnement, ce n'est pas une solution pour protéger un enfant. L'adolescent doit être avec les autres, doit se confronter même à la difficulté pour apprendre ce que mon collègue a appelé tout à l'heure la résilience. Tout ce qu'on demande à un parent, c'est d'anticiper, de savoir suivre l'évolution de son enfant. Je ne demande et je ne souhaite à aucun parent de devenir un dictateur en enfermant un enfant. Je demande à chaque parent de savoir prendre l'opportunité de n'importe quel geste, de n'importe quel propos, de n'importe quelle scène pour introduire une vraie discussion avec son enfant.
Le dialogue, toujours le dialogue. Roland Agbessi, vous voulez réagir?
Oui, mais bien sûr, je pense aussi, comme mon prédécesseur, que c'est non. Et cet enfermement va quelquefois jusqu'à retirer les portables aux enfants, jusqu'à leur interdire une certaine compagnie, leur refuser d'aller visiter des amis, tout ça. Je ne pense pas que c'est la solution pour aider vos enfants à grandir.
Alors, on va donner la parole à un autre spectateur ici à l'Institut français de Cotonou. Ce spectateur, c'est Enoch. Bonjour, Enoch.
Oui, bonjour, madame.
On vous écoute.
Je voulais parler de mon expérience. Moi, j'ai vécu avec un oncle et avec des cousins. Et de cette expérience, j'ai déduit que la rigueur des parents est un blocage pour le dialogue. Je me rappelle quand j'étais au CM2, mais quand on sortait de l'école, on traînait en route, on faisait tout pour rentrer tard, après 20h. On voyait l'homme comme un adversaire, pour ne pas être dans sa gueule tout le temps, puisque pour lui, il visait que notre avenir. Il avait une rigueur terrible. Quand il te voit, c'est les cahiers, les études. Quand on vient, on se déshabille, allez, mange quelque chose, et reviens, rejoins-moi. On commence, on étudie jusqu'à une heure infinie.
Ça veut dire que la maison n'était plus un refuge, la maison c'était un véritable piège pour vous.
Voilà, donc on fuyait la maison. Et même quand on était à la maison, il avait deux motos. On était quatre, mais on mémorisait tous. On savait distinguer le bruit de son moteur de tous les motos qui vont passer. Et quand sa moto arrivait, on se cachait dans les toilettes, sur le lit, on se cachait. Mais avec le temps, j'ai grandi, j'ai appris que c'était pas des choses à faire. Puisque lui, c'était son rôle, un peu un rôle de formateur, de rigueur, mais c'était un peu malmené. Aussi, je voulais aborder le thème de sexualité. Je me rappelle aussi, j'étais avec un oncle, j'ai fait beaucoup d'oncles. J'étais avec un oncle et j'avais une relation avec une fille. Je lui envoyais c'était la puberté, quoi. Je lui envoyais des petits mots et ses parents étaient pelés la lettre. Puis, le parent, il m'a rien dit, mais il s'est entendu avec mon oncle pour qu'il y ait une réunion. Il m'a pas donné la parole, mais il m'a juste posé une question. Enoch, à quel âge il faut s'intéresser à la femme? Et il jouait une chanson que j'écoutais, c'est lui-même qui jouait la chanson de Michel Sadou, j'ai 17 ans. Il m'a tapé le jour là, je ne l'ai jamais oublié. Je finis en disant, il y a ma maman aussi qui me dit, Enoch, je parle enfant, il dit, Mande yon beo. Et il me répétait ça.
Vous pouvez traduire?
Ça veut dire, ne suis pas les filles. Il me disait ça chaque fois, mais un jour je me suis formé à l'idée, un jour il me dira ça, je lui dirai, bon, Mande yon beo asun beo nan doa.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, si je ne vais pas avec les filles, c'est avec les hommes, j'irai. Et j'ai eu le courage de lui dire ça un jour, et elle a souri, elle a fait comme ça. Je vois que c'est avec le temps, avec moi, par exemple, mes enfants, je ne vais pas les pincer aussi pour qu'il n'y ait pas de dialogue.
Merci Enoch. Est-ce que ça veut dire aussi que selon vous, l'humour, c'est une excellente solution pour justement poursuivre le dialogue quand ça bloque, mais finalement, vous avez réussi à faire passer vos idées auprès des adultes ou vous avez fait quelques blagues et ça s'est arrêté là?
Les blagues, il n'y a même pas d'occasion pour en faire. Mais c'est une très bonne idée de faire des blagues. Sinon, moi, j'ai changé, je ne prends pas de parents, mais j'ai changé un peu de culture, j'ai découvert d'autres cultures. Et j'ai compris qu'il faut le dialogue, il faut le dialogue.
Merci en tout cas, Enoch, pour ce témoignage. On va passer tout de suite la parole à Aïchatou, si vous voulez bien vous lever. Merci beaucoup. Bonjour.
Oui, Carole. Moi, j'ai vécu avec une maman et deux grandes sœurs. Donc, maman nous élevait à trois. Donc, pour parler de l'éducation, de la sexualité avec mes grandes sœurs, elle m'excusait toujours. Elle me disait, non, toi, tu es trop petite pour pouvoir parler ou bien entendre tous ces genres de choses. Donc, du coup, j'étais timide, j'étais refermée sur moi-même. Donc, j'ai découvert les choses grâce aux camarades. J'ai su ce qu'on appelle sexe, sexualité, tout avec les camarades. Donc, moi, je vais donner comme astuce pour pouvoir éduquer les enfants. Utiliser des moyens pour pouvoir discuter. Par exemple, parlons de la télévision. Si, par exemple, maman regarde une télévision, un feuilleton de moins de 12 ans, tu passes par là et te dis non, tu n'as pas le droit de regarder parce que tu n'as pas l'âge. Tu ne dois pas regarder la télévision parce que c'est moins de 12 ans. Or, carrément, on pouvait utiliser peut-être ce moment pour pouvoir parler avec l'enfant. Lui dire, ça, c'est de la fiction ou ça, ce n'est pas de la réalité. Et les enfants utilisent les téléphones. Peut-être utiliser le téléphone pour pouvoir communiquer avec l'enfant ou carrément la fille est là, tu es à la cuisine, vous discutez et sans vous regarder face à face, elle pourra tout simplement se libérer.
Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire les yeux dans les yeux.
Voilà.
Et vous, tout à l'heure, vous disiez, j'avais envie d'en parler, elle en parlait avec mes sœurs. À partir de quel âge vous auriez aimé parler de ces choses avec votre maman?
À l'âge de 10 ans, 7 ans, c'est déjà suffisant.
Est-ce que, par exemple, votre maman mettait des mots sur les différentes parties de votre corps avant de parler de sexe? On fait sa toilette, on désigne les différentes parties de son corps, c'est naturel. On n'est pas du tout en train de parler de quelque chose de sale ou quoi que ce soit. On parle du corps, le corps, on en parle quand on va chez le médecin. Le médecin nous demande de nous déshabiller, il veut rien faire avec nous, oui. À part nous soigner en général.
Oui.
Donc voilà, c'est la même chose. Là, est-ce que vous disiez les mots de votre corps avec justement vos sœurs, avec votre maman? Est-ce qu'elle disait là, c'est telle partie de ton sexe ou ceci, cela?
J'avais dit que j'avais développé une timidité. Je ne parlais pas de moi. Je ne parlais pas de tout ce qui concerne mon intimité, ni avec mes soeurs, ni avec maman. Mais si c'est avec les camarades, je suis un peu libre pour pouvoir discuter avec eux. Mais avec ceux de ma famille, c'est carrément impossible pour moi. Donc c'est après que j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas ça l'éducation et qu'il faut discuter avec les parents.
Merci beaucoup Aïchatou, merci beaucoup pour vos conseils. Je crois que les personnes autour de cette table n'ont même pas de conseils à vous donner parce que apparemment vous avez tout compris. On va maintenant donner la parole à Nabila. Nabila, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute Nabila.
En fait, moi je voudrais juste partager une expérience, mon vécu avec vous. Je suis née dans une famille musulmane et dans les familles musulmanes, c'est assez, plutôt très difficile pour les parents de parler de sexualité avec leurs enfants. Moi, par exemple, dès le bas âge, ma maman ne m'a pas parlé des règles, des menstrues, par exemple. Je ne savais pas. J'entendais juste des camarades qui en parlaient, qui disaient, bon, elles aussi ignorantes, elles étaient sous-informées, elles ne savaient rien. Elles plaçaient la barre à 18 ans, qu'il fallait avoir 18 ans avant d'avoir ses menstrues.
Avec la majorité.
Oui.
Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Oui, mais elles ne savaient pas. Mais c'est ce qu'elles me disaient, c'est ce qu'elles disaient autour. Et j'étais au CME, je devais avoir entre les 12 ans. Quand j'étais allée à l'école un jour, j'ai commencé par avoir des maux de ventre. Je savais pas ce que c'était. Je suis rentrée à la maison tout en pleurs, sans savoir. Et c'est ma maman qui a su que j'avais une tache derrière ma tenue kaki. Et c'est là qu'elle me disait d'aller me laver, de revenir, qu'elle va m'expliquer. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je ne voulais pas rentrer en fait. Parce que je me disais, bon, les autres disaient 18 ans. Voilà, moi, j'avais 12 ans. Si je vais en parler, peut-être qu'on peut dire que c'est parce que je traîne avec des garçons ou que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse, quoi. Que c'était à cause de ça que c'était arrivé. Donc, j'avais un peu peur.
Parce que ça veut dire que vous faisiez la confusion entre vos menstruations et la perte de la virginité, pour parler simplement.
Oui,
vous croyez que vous aviez du sang à cause de la rupture de l'hymen.
Oui.
Et ce qui n'était pas du tout le cas.
Oui. Je ne savais rien de tout ça. Donc, quand j'étais allée à la maison, je ne suis pas allée seule. Je ne voulais pas rentrer. Il a fallu que mon instituteur me ramène avant que j'accepte le suivre et aller avec lui. Et c'est là maintenant que ma maman m'expliquait que c'était telle chose, telle.
Vous auriez aimé qu'on vous le dise plus tôt?
Oui, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt.
Est-ce que vous lui avez dit? Maman,
oui.
J'aurais voulu que tu me le dises plus tôt.
Oui, je le lui ai dit.
Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Elle a dit bon, qu'elle attendait le bon moment. Et je dirais sur ce côté-là qu'il n'y a pas de bon moment pour ça. Parce qu'on n'est pas Dieu, on ne sait pas combien de temps il va passer sur terre. On va que pour fixer l'âge à laquelle on doit commencer par parler de la sexualité à l'enfant. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain. Et pas avoir 1 an, 2 ans. Commence pas à lui parler de ça. Peut-être pas pour... Oui, parce que... L'Internet nous informe assez sur ces choses-là. Il suffit juste, avec 100 francs d'unité, on peut prendre de crédit et aller sur Internet s'informer par rapport à ça. Pourquoi pas commencer dès la maison et mettre en garde les enfants par rapport à certaines choses et leur dire, bon, il y a ci, il y a ça, mais fais attention par rapport à telle chose. Il ne faut pas aller à certains domaines, il ne faut pas expérimenter certaines choses sans savoir dans quoi tu mets les pieds.
Merci beaucoup Nabila, merci beaucoup. Justement, vous m'avez tendu une perche. Vous parlez justement des jeunes qui vont se renseigner sur Internet pour apprendre des choses. Faute de dialogue à la maison, on parle pas assez, on s'explique pas assez. Certains vont sur Internet. Michel Meinto, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, surtout en matière de sexualité.
Oui, il y a de n'importe quoi et ce que nous notons chez les jeunes, c'est de la curiosité sexuelle. Vous voyez que quand nous allons directement sur Internet, ce que nous tapons quand on est dans l'âge de la curiosité sexuelle, c'est que nous tapons la pornographie. La pornographie, nous voyons les images sans savoir que ces images nous traumatisent, sans savoir que ces images créent à notre niveau ce qu'on appelle la perversion sexuelle. Parce que tout à l'heure, on va commencer par chercher à imiter et à se donner du plaisir. Vous voyez un enfant qui a l'habitude de regarder ses photos sur Internet, développer ce qu'on appelle la jouissance personnelle à travers la masturbation. Du coup, aujourd'hui, les nouvelles technologies, nécessairement, et notamment l'Internet, et avec l'apparition des Android, où on se déplace avec l'Internet aujourd'hui, les enfants ont aujourd'hui la possibilité de s'informer sur n'importe quel sujet. Vous voyez, quelqu'un vient en entretien, je discute avec la personne, ma langue était allée plus vite que ma bouche. Je disais, il serait en train de faire certainement une dépression, ceci. Rapidement, sa mère me dit le lendemain qu'il est allé sur Internet chercher ce qu'on appelle dépression et dit qu'il a la maladie mentale et il faut que vous le rassurez, etc., etc. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est vrai que ces instruments ont des utilités hein, pour l'instruction des enfants, mais cela constitue également des obstacles, des freins hein, au processus de socialisation de l'enfant.
Il voit des images qu'il n'avait pas du tout forcément envie de voir. Justement, on va écouter la question ou le témoignage d'une dernière personne dans cette salle. C'est Elvis. Bonjour Elvis. Oui,
bonjour Paris, Caroline.
On vous écoute.
Mon témoignage, c'était pour dire que quoi, le climat, quand c'est tendu à la maison, c'est-à-dire plus rien ne passe. Mais cela m'amène à pouvoir dire, je sais que nous sommes dans un processus où le gouvernement cherche à pouvoir introduire l'éducation sexuelle dans le curricula de formation au Bénin. Mais nous avons la chance d'avoir des représentants ici de grandes organisations et le ministère ici. Selon eux, en tant que parents, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de la chose? Parce qu'il faut le dire, les leaders constituent aujourd'hui une barrière pour favoriser le dialogue entre parents et enfants. Les chefs religieux, par exemple, on peut parler, par exemple, d'un chef d'arrondissement, par exemple.
Les autorités locales enfin, font blocage pour la bonne communication.
Ceux qui ont peut-être de la notoriété dans leur localité, ils constituent un blocage. Je prends un exemple, si vous menez une activité de communication, d'entretien avec les jeunes du quartier, et qu'ils passent et qu'ils vous voient en train de discuter, c'est les premières personnes à vous dire « Non, vous laissez cette affaire, nous ne sommes pas pour ».
Merci beaucoup Elvis pour ce témoignage. Mistoura Salou, vous avez certainement une opinion là-dessus. Vous-même, vous êtes activiste, vous travaillez auprès des jeunes, vous faites la promotion du dialogue entre les différentes générations pour la prévention en matière de santé. Est-ce que vous sentez justement du côté de certaines autorités locales une forme de blocage, de censure?
Je l'avais dit tantôt qu'il y a la sociologie. Le contexte est lourd. Ce n'est pas favorable. Mais parler du blocage, ce n'est pas systématique. Parce qu'il y a un processus pour organiser des séances de dialogue intergénérationnel. Il faut d'abord aller vers ces autorités informées. Parce que le véritable problème, c'est que les autorités, disons, les hommes de cet âge-là, de cette génération, n'étaient pas éduqués à cette forme de sexualité. Donc, il faut leur faire comprendre ça. Mais quant aux autorités, par exemple, les leaders religieux, on a des systèmes, on a des stratégies qu'on utilise tous ensemble, on les a mis tous aujourd'hui dans un creuset où on travaille avec eux, on veut faire la promotion. Mais le problème n'est pas aussi que les parents. Il y a aussi les jeunes. Il y a des parents qui sont très ouverts à aller au débat, mais les jeunes ne veulent pas discuter. Parce que chaque fois, on est toujours là à croire que c'est les parents qui constituent les véritables freins. Les leaders ne veulent pas. Mais parfois, le débat est là, mais le jeune ne veut pas du tout faire confiance aussi à un adulte. Il ne veut pas du tout faire confiance à ses parents. Donc, moi, je dis, dans les deux camps, il faut vraiment pouvoir agir. Parce que les jeunes, ils ne croient même pas qu'ils peuvent discuter de la sexualité avec un adulte. Ils veulent simplement croire à leurs jeunes, à leur père. Ils veulent croire seulement à ceux qui sont plus à côté d'eux. Même les dispositifs que nous avons mis en place, nous avons les lignes vertes, nous avons des centres jeunes où on demande à ces jeunes de fréquenter ces centres, d'aller vers plus les spécialistes pour écouter, échanger. Mais ils ne veulent pas faire ça. Mais tout le temps, parfois, ils disent « Non, mon papa n'a pas voulu parler avec moi. Et tel leader, quand on parle, il a fait ci. » Ce n'est pas que les leaders. Il y a aussi les jeunes qui constituent aussi une couche sur laquelle il faut travailler.
Bruno Benito sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut parler de tout avec ses enfants?
Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de tout. Mon ami Roland a dit que c'est le choix d'abord des mots, des registres. Et quelquefois, il ne faut pas chercher à toujours parler. Il y a des gestes qui parlent. Moi, je suis pour que nous développions, selon les familles, parce qu'on sait toujours ce que c'est qu'une famille, les moyens appropriés pour cette famille. Les conflits de génération naissent simplement parce qu'on se refuse de dialoguer. En général, quand le premier pas a été franchi, tout le reste, nous pouvons en discuter. J'encourage le dialogue comme instrument essentiel pour que nos familles redeviennent des familles où enfants et parents se sentent à l'aise. Continuons le dialogue, encourageons le dialogue et tous ceux qui ont la possibilité d'aider, les familles à dialoguer. C'est carrément un travail qu'on leur demande pour que notre société se porte mieux.
Merci beaucoup. Voilà, notre émission consacrée au dialogue entre les générations touche à sa fin. Priorité santé enregistrée à l'Institut français de Cotonou avec le concours du fonds Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Merci à vous quatre, hein, nos invités. Mistoura Salou, chargée des programmes santé sexuelle et reproduction au sein de l'organisation Seradis. À vous, Michel Meinto, psychologue, directeur de l'association béninoise des psychologues cliniciens. Bruno Gbeinto, directeur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence au sein du ministère béninois des Affaires sociales. Et à vous, Roland Agbessi, directeur exécutif des scouts du Bénin. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Bertrand Éclair ici à Cotonou, assez tous à Maquet, Didier Bleu à Paris. Merci surtout à vous, hein, public de Cotonou. On vous attend, on vous retrouve aussi nombreux demain, toujours ici au Bénin. Nous parlerons de l'accès à la contraception à l'occasion de la Journée internationale des femmes, puisque demain, nous serons le 8 mars. À demain.
C'était Priorité Santé, avec Suno Assurance, qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.